Mélanie, vous êtes psychologue clinicienne et auteure notamment du livre « Guérir la blessure de rejet » aux éditions Erol, qui est un petit livre d'exercice très pratique pour évaluer sa blessure et s'en libérer. Alors, pour remettre dans le contexte, il faut savoir que les cinq blessures émotionnelles sont la découverte du psychanalyste freudien Wilhelm Reich, qui plus tard ont été étudiées par des psychiatres et psychologues américains, et enfin reprise dans un livre à succès que l'on connaît tous, le livre de Lise Bourbeau, Les cinq blessures de l'âme. Alors, dans cet entretien, vous allez nous expliquer ce qu'est vraiment la blessure de rejet, parce que le mot rejet, finalement, c'est pas toujours très facile à comprendre ce que ça signifie. Comment cette blessure se manifeste en fait dans notre vie quotidienne, comment elle s'est construite et surtout comment on s'en libère autant que possible. Alors, ma première question, quels sont les symptômes d'une blessure de rejet? Vous expliquez dans votre livre qu'on peut voir ça à travers différentes catégories dans notre vie, que sont le monde matériel, le rapport au projet, par exemple, le monde du travail et l'amour. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans ces différentes catégories?
Alors, il est vrai que la blessure de rejet s'active particulièrement dans le domaine amoureux et professionnel. On voit en général dans le domaine professionnel un espèce de surinvestissement qui conduit souvent à un épuisement, voire un burn-out, où la personne va être dans un perfectionniste constant. Elle va vraiment toujours vouloir faire mieux pour avoir la reconnaissance et avoir le sentiment d'appartenir vraiment à ce lieu travail, à cette entité travail, avec parfois une projection de figure parentale sur le patron ou la bosse, etc. Il y a vraiment cette projection-là. C'est comme si elle rejouait avec ses supérieurs ou ses collègues ce qui lui a fait défaut pendant l'enfance. Donc voilà, donc ça, bah, typiquement, l'exemple, hein, c'est le salarié ou l'entrepreneur qui va jamais être satisfait de ce qu'il fait, qui va passer des heures à travailler et qui va être vraiment assujetti au regard du collègue ou du patron pour attendre tout le temps des félicitations pour être sûr que ce qu'il fait, ça tient la route et que c'est digne, que c'est oui, enfin que ce qu'il a fait, c'est parfait et qu'il a toute sa place dans l'entreprise, par exemple. Enfin, je schématise un petit peu, hein. Donc voilà pour le monde de l'entreprise. Et effectivement, ça fait le lit parfois de dépression, de troubles anxio-dépressifs, etc. Ensuite, en ce qui concerne la relation amoureuse, ce qui est assez typique, c'est que les personnes qui souffrent de la personne de rejet, comme elles ne se sentent pas aimables, ça vient de l'enfance, on en parlera après, j'imagine. Elles ont l'impression que le conjoint ne peut pas rester avec elles. Alors, on n'est pas dans le sentiment d'être abandonné. On est dans le sentiment justement que je ne suis pas digne d'être aimée et ce conjoint-là va forcément tromper la personne, va être adultérin, donc ou qu'on ne peut pas faire confiance à ce conjoint. Voilà. Donc ça va, c'est des personnes qui viennent en consultation, soit parce qu'effectivement elles ont été trompées, mais finalement elles ont suscité ça chez le conjoint ou la conjointe, puisque c'est quelque chose qu'elles répètent tout le temps. De toute façon, je suis sûre que tu me trompes. Ça conduit vraiment à des suspicions, à des personnes qui vont aller fouiller le portable ou qui vont imaginer tout un tas de scénarios. Parce que la blessure de rejet, finalement, dans tous les domaines, elle existe plutôt dans la tête que dans le réel. Hein, on va dire que la plupart du temps, c'est pas vrai. La victime de rejet, elle est un peu comme un enfant. Elle reste avec ce prisme-là, cette vision que on peut pas l'aimer, qu'elle n'est pas digne, qu'elle est illégitime, et autant dans la vie personnelle que professionnelle. Et dans les relations amicales, c'est pareil. La personne qui souffre du rejet va penser qu'elle n'est jamais assez bien, et elle va se faire passer au second plan parce que justement, elle est toujours dans Alors la séduction, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais elle veut toujours plaire, elle veut être reconnue, elle veut appartenir à. Et c'est ce qui la met vraiment en difficulté. Donc ça fait, par exemple, en consultation, c'est des personnes qui vont se plaindre de ne jamais se sentir comme les autres. Alors en plus, il y a parfois des gens qui sont hautement sensibles. Donc ça vient s'ajouter à la blessure de rejet. Et c'est des personnes qui provoquent la solitude parce qu'elles se sentent mieux seules, parce que sinon l'extérieur les agresse, mais qui finalement vont se retrouver seuls de leur fait et qui vont, elles vont pas s'en sortir. En fait, elles sont dans un cercle vicieux où elles n'arrivent pas à être elles avec les autres. Donc forcément, elles s'auto-rejettent puisqu'elles ne sont pas elles. Et à la fois, elles sabotent les relations avec les autres puisque les autres ne lui conviennent pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très, très compliqué. Voilà. Après, pour le monde matériel, ben, c'est des personnes en général qui ne sont pas du tout matérialistes, qui vont pas du tout accumuler les objets. Voilà. Donc qui vont justement avoir une grande facilité à se séparer des choses, comme elles ont une grande facilité à couper les liens avec les personnes qui ne les gratifient pas. Ou
Ah
si
ouais,
un
mais
passe-passe, voilà, oui.
c'est pas un peu incompatible avec la sensibilité ou comment ça se fait qu'elles arrivent facilement à couper des liens ou à se séparer des objets?
Bah en fait, c'est parce qu'elles se. Alors, les objets, c'est autre chose. Les objets, c'est parce qu'elles n'investissent pas le matériel. Voilà, c'est pas important
D'accord.
pour elles. Elles ne sont pas dans l'accumulation pour combler quelque chose. Avec les personnes, finalement, ce qui se passe, c'est que elles ne sont pas elles-mêmes. Donc, elles font semblant. Elles mettent un masque. Hein. Elles mettent un masque du perfectionniste au travail, le masque du fuyant dans les relations. Et plutôt que de souffrir quand l'autre leur renvoie des choses ou qui finalement pourraient être des cadeaux pour faire avancer quand l'autre nous critique ou voilà ou ne nous gratifie pas comme on attend, ben ces personnes-là, elles vont préférer fuir pour se protéger et elles vont pas donner de nouvelles, par exemple. Ou alors, si elles se font recadrer par un boss au travail, eh bien, elles vont se mettre en arrêt maladie ou elles vont aller chercher autre chose. Elles ont une grande facilité à passer de quelque chose à l'autre. Et je dirais peut-être qu'elles sont même parfois, je n'ai pas dit que c'était toujours, mais dans le tout ou rien. C'est-à-dire, elles vont hyper investir une personne, comme dans une relation un peu fusionnelle, même si on n'est pas dans la même problématique qu'une autre blessure. Et puis, d'un seul coup, elles vont couper. Voilà. Donc, ça peut être très mal perçu aussi par l'entourage qui ne va pas comprendre, voilà, pourquoi, subitement, la personne ne donne plus de nouvelles. Et ce sont des personnes qui sont assez rigides pour le coup. Mais cette rigidité, ça leur permet de tenir face à l'adversité, puisque finalement, l'extérieur, est assez menaçant. Je ne peux pas compter sur l'extérieur parce que je suis rejetée, parce que je n'ai pas ma place. Voilà, c'est une question aussi de quête d'identité. Qui je suis moi vraiment? Puisque je ne suis pas moi, puisque j'existe dans le regard de l'autre, parce que je suis là pour plaire à l'autre, pour qu'on m'aime, pour combler une blessure de la toute petite enfance.
C'est
Voilà.
quoi quand vous expliquez que la personne essaie d'être parfaite pour se faire accepter, donc là, on peut penser aussi à la blessure d'injustice.
Oui, alors
Quelle
les.
différence à ce niveau-là?
Alors en fait, elles sont très liées. C'est les deux blessures qui vont ensemble.
Ah, d'accord.
Mais oui, parce que, mais oui, il y en a cinq blessures principales, mais en tout cas, le rejet et l'injustice fonctionnent ensemble. En général, je n'ai pas été désirée comme telle, je n'ai pas le sentiment d'avoir été aimée, je ne suis pas légitime, je n'ai pas le droit d'exister, et c'est très injuste. Et de toute façon, ce sont des personnes qui, en général, sont un peu caliméro, qui vont beaucoup se plaindre. C'est trop injuste, quoi. Tout ce qui leur arrive, c'est souvent la faute de l'autre. Voilà. Alors que finalement, c'est elles qui sont injustes avec elles, mais elles n'en
Avec
ont pas
elle-même.
conscience. Elles n'en ont pas conscience, puisque de toute manière, les blessures, ce sont des choses qui ont été engrammées dès la conception jusqu'à l'âge de 1 an pour celles-ci. Mais j'aurais tendance à dire que parfois ça remonte à quelques générations, ça peut vraiment être du transgénérationnel. Et elles n'ont pas forcément conscience que c'est activé dans la vie. C'est quand ces personnes en prennent conscience qu'on peut travailler dessus. Mais c'est comme si le passé se rejouait en permanence. C'est comme si le tout petit enfant à l'intérieur d'eux, c'est quand même lié avec l'enfant intérieur aussi, se remanifestait régulièrement pour venir dire, ben moi, personne ne m'aime et c'est trop injuste et j'y arriverai jamais et je ne suis pas quelqu'un de bien et c'est jamais assez bien ce que je fais. On peut toujours faire mieux, c'est sûr, mais à un moment, je pense que on est son propre pourvoyeur d'amour de soi et d'estime de soi. Hein. On peut pas demander à l'autre de nous apporter tout ce dont on a besoin, mais c'est exactement ce qui se passe pour la victime de rejet. Elle pense que l'autre doit combler ses besoins, ses désirs, ses attentes et l'amour qu'elle ne se voue pas ou pas assez.
Alors justement, on va aller à la genèse, on va dire, de cette blessure. Donc vous disiez que ça se fait entre 0 et 1 an, c'est ça?
Oui, tout à
Et
fait.
alors qu'est-ce qui se passe du coup? C'est dans le rapport à la mère et qu'est-ce qui se passe?
Alors, il est dit, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la théorie que la blessure de rejet vient du parent du même sexe. Autrement dit, si on
D'accord.
est une petite fille, ça va être avec la maman. Si on a un petit garçon, ça va être avec le papa. Et donc, de la conception à 1 an. On peut imaginer, par exemple, que la grossesse arrive au mauvais moment. Pour des tas de raisons, des raisons économiques où il y avait un désir de bébé, puis c'est plus le cas et le bébé, la grossesse arrive à ce moment-là, ou alors une grossesse non désirée, ou alors un accouchement qui se passe très difficilement et le bébé est séparé de la maman, enfin va en couveuse, en réanimation, etc. Voilà, ça c'est les grandes lignes en général de ce qui fait le lit de la blessure de rejet, mais ça peut arriver aussi quelque temps après la naissance dans cette dans, On dit que la jeunesse, c'est la première année, mais pour moi, dans ce que je vois avec mes patients et ce que j'ai pu lire aussi, c'est que ça peut arriver quand même plus tard. Par exemple, il y a la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, l'aîné va se sentir rejeté parce que c'est des blessures universelles en fait. On les porte, mais elles s'activent selon les événements de vie. Donc, on va dire que s'il se passe un événement la première année de vie qui commence à ouvrir cette blessure, tout ce qui va se passer derrière va venir l'ouvrir davantage, enfin la rouvrir tout le temps, va venir la creuser, on va dire. Et voilà, donc c'est la reviviscence de cette blessure de la prime enfance qu'on va dire, c'est une blessure assez archaïque. C'est quelque chose qui ne s'est pas bien passé, ou enfin, quand je dis ça, ça peut paraître jugeant, qui s'est passé comme ça devait se passer à l'époque où ça s'est passé pendant la première année de vie. Chacun a fait de son mieux. Mais par exemple, ça peut être aussi une maman qui a voulu ce bébé. Et qui est très content que le bébé soit né, mais qui va avoir une dépression du postpartum. Donc, qui va être là, mais pas là, qui va être pas psychiquement présente. Ça peut être aussi un bébé arrive dans un couple et le couple se déchire. La naissance bouleverse le couple. Donc, les parents sont pas très présents à ce bébé-là. Donc, voilà. Donc, c'est le bébé, il sent bien que il a pas vraiment sa place à ce moment-là. Enfin, alors, c'est perçu dans le corps, hein, parce que bien sûr. Un bébé ressent les choses principalement, je dirais, uniquement par le corps, sans pouvoir mettre de mots dessus. Hein. Donc, c'est ça qui fait que des petites blessures commencent à s'engrammer. Ça s'inscrit dans le corps, dans le psychisme, et au fil de la vie, ça se réactive, en fait. Voilà.
Donc en fait, alors moi ce que j'aimerais, c'est qu'on clarifie ce mot de rejet parce que finalement le bébé n'a pas forcément été rejeté en tant que tel, mais il s'est senti pas accueilli, on va dire. Si
C'est
la maman
ça.
fait une dépression, elle n'a pas forcément rejeté son bébé.
Non, elle ne le rejette pas, mais elle n'est pas présente à 100%. Un bébé, pour se construire, il a besoin d'être porté aussi bien physiquement que psychiquement. Il a besoin d'être à la fois dans les bras, dans le cœur et dans la tête des parents. Et le parent doit vraiment être celui qui va se mettre à la place du bébé. Donc, on parle vraiment d'empathie, d'empathie, puis de la capacité, le parent suffisamment bon, c'est la capacité à pouvoir anticiper les besoins du bébé, essayer de trouver qu'est-ce qu'il a ce bébé quand il pleure, voilà, enfin vraiment se mettre comme si on était le bébé. Il va prêter sa tête, son appareil psychique, hein, à ce bébé pour essayer de décrypter ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on appelle l'accordage. Mais quand un parent n'est pas disponible pour différentes raisons, l'accordage va être moins évident. Et ça peut créer aussi, évidemment, des troubles de l'attachement. De toute manière, en général, les personnes qui souffrent de la blessure de rejet, pardon, ont un attachement anxieux, un attachement évitant, voilà, hein, de toute façon, parce qu'ils se sont rendus compte que le porte-avions, hein, qui est là au départ, hein, donc l'image parentale, n'était pas toujours là quand le bébé avait besoin de se poser dessus, pour des tas de raisons. Un parent qui n'est pas du tout disponible psychiquement ou qui a des difficultés à investir son bébé, on sait que c'est très difficile d'être parent, que la première année est quand même dure. Enfin, les mamans manquent de sommeil, sont perdues, savent pas comment faire. Les 3 premiers mois, le bébé pleure beaucoup. Enfin, voilà. Et ça, quand un parent est en capacité de mettre des mots dessus, simplement, tu pleures mon bébé, mais je ne sais pas quoi faire pour te soulager, c'est pas pareil qu'un parent, et j'ai aucun jugement là-dessus, hein, je suis une maman aussi, donc je sais ce que c'est, quand un parent va mettre son bébé dans son lit pendant 1 heure et le laisser brailler, parce qu'il n'arrive pas à le calmer, et à la fois, quelque part, c'est bien aussi de se protéger du parent qu'on pourrait être submergé par les pleurs de son bébé. Hein. Plutôt que de secouer son bébé, par exemple, c'est mieux de le laisser pleurer. Mais ça inscrit quand même à ce moment-là dans le corps et dans le psychisme, personne n'est là pour venir soulager ma souffrance. Alors, je déculpabilise les parents qui écouteraient cette vidéo. On fait ce qu'on peut. Il vaut mieux laisser son bébé pleurer. Bon, 1 heure, ça fait beaucoup, hein, et aller demander du relais que de brailler dessus. Et voilà. Et toutes les fois où on laisse pleurer son bébé parce que c'est comme ça et parce qu'on n'arrive pas à le soulager, il a mal aux dents, on donne un doliprane et on ne peut pas faire plus, hein, ne fait pas le lit de la blessure de rejet. On va dire que la blessure de rejet, c'est tout un ensemble de choses. Et on peut se rendre compte, comme je le disais il y a quelques instants, quand on s'intéresse à la psychogénéalogie, qu'il y a vraiment des lignées où il y a eu des drames, des traumas ou des séparations, par exemple avec la guerre, enfin, où la femme se retrouve enceinte, le mari est parti à la guerre, il y a des grosses angoisses, des choses comme ça, où là on peut retrouver la blessure de rejet, d'abandon qui va se rejouer, ou des femmes qui ont été systématiquement trompées. Quitter, eh bien, il va y avoir cette croyance que bah, l'homme, qu'on peut pas rester avec un homme ou qu'on ne peut pas rester avec une femme parce qu'on va forcément se faire quitter qu'on n'est jamais aimable. Enfin, il y a des lignées où on pense que personne n'est digne d'être aimé, en fait, qu'on est juste bon à se faire jeter. Enfin, voilà, ça, c'est transmis par les parents. Enfin, voilà, et bon,
Des
c'est familial.
croyances, des
Ouais, c'est des
croyances, des façons
croyances.
de faire qui se transmettent.
Exactement, c'est le mot juste, c'est ça, des croyances qui sont héritées de grand-mère en fille, de parents. Voilà, c'est comme ça. Mais si on ne va pas fouiller, on ne le sait pas. Donc, parce que parfois, il y a des patients qui ne voient pas d'où ça peut venir, ce rejet permanent. Alors, ils ont un discours où ils vont utiliser toujours les mêmes phrases, je suis trop nulle, je ne sers à rien, j'y arriverai jamais. Voilà, tous ces mots qui montrent vraiment, qui sont typiques de la personne qui souffre de cette blessure, pour qui c'est la blessure principale, mais il n'y a pas forcément de connaissance de toutes ces croyances, de tout ce qui s'est joué dans la lignée familiale. Donc, il peut m'arriver. Mais c'est pas du tout. Je ne suis pas spécialiste en psychogénéalogie, donc c'est juste des petites questions que je leur pose. Je leur dis peut-être que vous pourriez discuter avec vos parents ou vos grands-parents, connaître des événements de vie qui pourraient expliquer pourquoi vous avez cette peur permanente d'être rejeté, pourquoi vous avez l'impression qu'on vous aime jamais assez, qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans la relation, ou pourquoi est-ce que vous quittez les gens comme ça, pourquoi vous changez toujours de travail, qu'est-ce qu'il y a de dangereux, qu'est-ce qui ne va pas dans le fait d'aimer, de s'attacher à. Enfin voilà, donc c'est passionnant hein, comme domaine.
Alors, c'est intéressant, ça vous dit. Donc, par exemple, les personnes qui ont la blessure de rejet, alors principale, parce que d'après ce que je comprends, on peut les avoir toutes plus ou
Oui,
moins, mais il y en a une qui est assez prépondérante.
sauf
Oui.
l'humiliation.
D'accord.
L'humiliation, d'après la théorie, c'est pas une blessure, ce serait la moins universelle des blessures.
D'accord. Qu'on peut changer régulièrement de travail ou qu'on quitte régulièrement. Pourquoi on fait ça? On ne le fait pas consciemment? Qu'est-ce qui se passe dans
Non,
ton
non, non, c'est
inconscient?
inconscient. Ben, parce qu'à partir du moment où on a le sentiment de ne pas appartenir à, d'être pas suffisamment bon pour appartenir à une entité travail, eh bien plus pour se protéger, c'est la fuite, c'est le masque du fuyant. La personne va se dire, c'est pas moi, c'est les personnes qui ne savent pas faire avec moi. Et de toute façon, tout ce que je fais, ça va jamais. Ils vont préférer changer de travail. Bon, c'est assez caricatural, mais quand même, hein, ça, c'est ce qu'on peut noter, que d'affronter le groupe dans lequel il ne se reconnaît plus. Alors que parfois, c'est juste une question de revoir sa copie, discuter, et puis on n'est pas sur son lieu de travail pour se faire aimer. Sauf que le problème des personnes qui souffrent de la blessure de rejet, c'est qu'elles veulent se sentir aimées partout. Elles veulent se sentir aimées au travail, avec tous les amis et en couple. Et voilà. Enfin, et comme elles veulent se faire apprécier du commerçant chez qui elles vont toujours, si un jour le commerçant leur fait la tête parce qu'il a des soucis, lui, dans sa tête, elles vont se dire, oh, ça y est, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai encore fait un trait de travers. Elles vont toujours. En fait, elles s'auto-rejettent, mais finalement, elles sont égocentrées. C'est-à-dire qu'elles ne voient la vie qu'à travers leur monde intérieur de petits caliméros. Donc quand elles en ont conscience, on va leur dire, mais là, c'est le petit enfant qui souffre. Mais qu'est-ce qui vous dit que cette personne-là, elle a pensé ça? C'est un scénario où vous vous êtes construit. Mais en fait, c'est ce que je mets dans mon livre, hein. J'ai quelques exercices là-dessus avec un tableau à remplir. C'est quelle était la réalité? Ça se trouve, le commerçant, là, ou le patron, il avait tel truc où la personne, la copine qui répond pas au téléphone pendant 2 jours, ça y est, ça va tout de suite, eh ben, ça y est, ça va pas, j'ai encore été, il y a un truc que j'aurais pas dû dire, ou elle m'aime pas, ou ça y est, elle a trouvé une meilleure relation que moi. Non, en fait, elle a peut-être tout simplement un gros truc dans sa vie ou un déplacement professionnel qui fait qu'à ce moment-là, elle n'est pas disponible. Mais voilà, c'est la blessure de rejet invite beaucoup à interpréter.
Ce que j'en comprends, c'est que finalement, La personne voit toutes ces situations avec ce filtre par rapport à elle-même d'amour parce que
à
elle
fait.
n'en a pas reçu assez, elle.
Oui,
Donc, en fait, elle va
ouais.
aller le chercher à l'extérieur, ce qu'elle n'a pas reçu
C'est
dans
ça.
ses bases.
Exact. Oui, c'est ça. C'est une quête de reconnaissance, de gratification et d'amour permanente, finalement. Et je trouve que ça devrait être transformé en la reconnaissance et l'appartenance, ça peut être transformé en moteur, mais en le faisant pour soi. En sachant moi ce que je reconnais de moi, ce à quoi j'appartiens vraiment et où je trouve de la satisfaction, parce que se mettre dans le rouge, si on revient au travail, se mettre dans le rouge, passer des heures à travailler ses dossiers, à faire des PowerPoint, etc., pour attendre de l'autre qu'il nous gratifie, c'est se raconter une histoire, parce que ce qu'il faut, c'est soi, à un moment, se dire, c'est OK, j'ai fait mon travail du mieux que je pouvais, je ne peux pas faire mieux. Si je pourrais faire mieux, mais il faut que je m'arrête, parce que là, je ne me respecte pas. Je ne m'écoute pas dans mes besoins, je dors 3 heures par nuit pour cette fameuse réunion. Et est-ce que c'est juste pour moi?
Est-ce que ça va être aussi des personnes qui, du coup, dans le couple, peuvent de la même manière se sacrifier, entre guillemets, pour l'autre,
Oui,
pour
bien
être
sûr.
aimées et du coup s'oublier totalement?
Ah bah complètement. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Ah ouais. Tant dans le couple que dans les relations amicales, hein, c'est vraiment des personnes qui vont se sacrifier en permanence, faire passer l'autre d'abord. Mais vraiment pour tout quoi, enfin c'est pour avoir l'impression qu'elles sont les personnes les plus merveilleuses au monde, infaillibles, sur lesquelles on peut toujours compter, qui aiment inconditionnellement, et en fait elles attendent qu'on leur renvoie la même chose, sauf que bah, le conjoint lui, s'il souffre pas de la même blessure, enfin souvent quand même on retrouve en miroir hein, des blessures similaires. Mais en tout cas, le but, c'est de se réparer ensemble. Parfois, ça fonctionne très, très bien. Mais le conjoint, lui, il n'a pas du tout demandé ça, quoi. Enfin, lui, s'il est vrai, s'il est lui et qu'il ne fait pas semblant, bah, il ne va pas essayer de mettre en place tout un tas de choses pour satisfaire l'autre en permanence, quoi. Voilà.
Et en
C'est
fait, oui.
se perdre dans l'autre et se perdre en soi. Donc, c'est s'auto-rejeter. Je pense que la blessure de rejet, on pense qu'elle vient des autres, mais finalement, c'est du rejet de soi. C'est de l'auto-dénigrement permanent, quoi.
Et quand vous dites que finalement on arrive à se faire rejeter parce qu'on l'a provoqué, est-ce que justement ces comportements de vouloir être réassuré en permanence, imaginons dans un couple, quelqu'un, voilà, toujours vouloir que l'autre lui prouve qu'il l'aime, etc., finalement ça peut agacer l'autre et puis au bout d'un moment il en a marre et il s'en va.
Exactement, parce que c'est trop. Parce que c'est trop, et puis c'est comme un puits sans fond, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, l'autre, il ne peut pas être là pour nous combler en permanence. Il faut apprendre soit à être à l'écoute de soi, de ses besoins, et se donner de l'amour à soi. On ne peut pas demander à l'autre de nous satisfaire tout le temps, à 100%, H24. Ce n'est pas possible. Qui on est pour exiger ça, quoi? Là, on se rapproche d'un mécanisme qu'on appelle, d'un principe qu'on appelle la toute-puissance. Hein, voilà. Où on est tout puissant et on a l'illusion, un peu comme l'enfant qui a la pensée magique, que tout ce qu'on veut, on va le créer, quoi. Voilà. Et on retrouve vraiment des mécanismes très infantiles, hein, quand les blessures s'activent, ça vient. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et que je redis, parce que c'est important, c'est que ça réveille le petit enfant en nous, hein, tout simplement. Hein. Voilà, frustré. Pas... Alors, je crois quand même, pour creuser ça avec des patients, que la victime, elle a été aimée. Mais pas peut-être comme elle aurait voulu l'être, ou pas assez, mais les personnes, les parents, l'entourage ont donné l'amour qu'ils pouvaient donner à ce moment-là. Ils n'auraient pas pu faire autrement. Et en thérapie, on arrive à revisiter ça. On arrive à. Enfin, mon travail, c'est ça, c'est d'offrir un autre regard, poser d'autres lunettes sur le nez, si j'ose dire, des lunettes de compréhension et de conscience, pour voir finalement comment ce parent vous a aimé. Parfois, l'amour d'un parent, ça va être s'assurer que l'enfant a chaud pour sortir l'hiver avec un bon blouson, des bonnes chaussures, mange à sa faim, a du linge propre, et puis va à l'école et on est là pour les devoirs. Ça peut être ça, l'amour. Ce n'est pas forcément le parent qui va câliner, qui va dire je t'aime X fois dans la journée, qui va faire un câlin qui dure 3 heures le soir. Chaque parent aime avec ce qu'il est et ce qu'il a reçu déjà comme bagage. Alors, il y a des parents qui n'ont pas reçu de compétences pour aimer leur enfant en le disant, en le montrant, mais par contre, eux, ils vont se défendre de ça, ce qu'on appelle une formation réactionnelle, ils vont faire l'inverse. Donc, ils vont être très fusionnels avec leurs enfants, ils vont réparer, etc. Donc là, ça fait en général pas des enfants qui souffrent de la blessure de rejet. Mais il y a des parents qui vont pas pouvoir faire tellement mieux que leurs parents. Ils font ce qu'ils peuvent. Donc là, c'est pareil, je déculpabilise beaucoup tous les parents qui se sentent, qui ont l'impression de pas avoir assez montré d'amour à leurs enfants. Ils ont fait comme ils pouvaient à ce moment-là. C'était pas possible autrement et c'est pas grave. Et on apprend justement à poser un autre regard avec plus de compassion, d'empathie. Et on va creuser aussi encore un peu la lignée, voir qu'avec l'histoire qu'a ce parent-là, comment pouvait-il faire autrement, quoi? Hein, voilà. Mais ça, c'est quand on veut mettre de la conscience sur tous ces mécanismes et cette blessure. Quand on veut pas, bah, les choses se rejouent. Quand on remarque pas qu'elles se rejouent et que pour nous, c'est comme ça, bah, ça change pas. Et il y a des gens, toute leur vie, ça va se répéter. Mais c'est pas grave. Hein, voilà.
Oui, à un moment, s'ils en ont marre, ils mettront un petit peu de conscience.
Exactement. Bah, je pense quand même que quand on change de travail toutes les 5 minutes ou qu'on se fait quitter toutes les 5 minutes ou qu'on n'a pas des relations satisfaisantes avec les amis, bah, on en souffre forcément. Ou alors, on a vraiment des gros mécanismes de défense, bah, comme le déni qu'on retrouve aussi dans cette blessure. Là, c'est quand on n'en a pas du tout conscience et qu'on n'a même pas envie de comprendre comment on fonctionne avec les autres, au travail, dans la vie amoureuse, etc., quoi.
Et donc, vous évoquez le masque du fuyant. Donc, comment ça se... Alors, est-ce que ça se manifeste justement uniquement quand cette blessure est activée? Mais j'ai envie de dire, cette blessure, elle est active tout le temps. On est tout le temps en relation avec des gens.
Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, oui, la blessure de rejet, quand c'est notre blessure principale, elle est active tout le temps, bien sûr, hein. Alors, j'ai envie de dire que pour moi, on ne la guérit pas. Donc, même si le titre du livre, c'est la guérison, on vit avec, on apprend à les regarder avec plus de tendresse. Et donc, c'est comme une petite cicatrice qui serait là. Et de temps en temps, la cicatrice, elle pique, elle gratte ou elle saigne un petit peu. Et on va venir la panser, PAN. S-E-R, mais pensez aussi PENSER, parce que je pense que quand on la pense, quand on la conscientise et qu'on la regarde, eh bien on peut la soigner, enfin, l'apaiser pour pouvoir continuer à vivre sans moins souffrir. Et on ne sait pas quand elle reviendra de toute façon, mais le masque du fuyant, c'est simplement l'évitement, hein. Pour ne pas souffrir, je fuis. Je fuis ce lieu où je me sens pas bien. Donc, ce sont des personnes qui aiment la solitude. Alors, ça peut être une solitude ressourçante, sauf qu'au bout d'un moment, c'est une solitude qui peut devenir dévitalisante, puisqu'on a quand même besoin des autres. On a besoin de se nourrir des relations avec les autres pour se sentir bien, même si, évidemment, certaines personnes préfèrent la solitude, vivre seule, etc. Et ça, c'est tout pendant qu'on n'en souffre pas. C'est pas grave. À partir du moment où la solitude devient une souffrance, il y a une différence entre vouloir être seul un après-midi pour être dans le calme et prendre soin de soi, et subir la solitude où il n'y a plus personne qui appelle, on n'est plus invité à des dîners, au travail, tout le monde, il y a des gens parlent ensemble mais ne parlent plus, enfin, ne s'adressent plus aux victimes. Enfin, là, il y a un problème, quoi. Mais si on utilise le déni, ça ne se voit pas. Et là, la fuite, ça serait de faire, ben, je m'en vais loin, comme ça n'existe plus et c'est plus mon problème. Sauf que ben, si, ça reste le problème parce que c'est pas satisfaisant. On est des êtres, on
Sociaux.
s'incarne, voilà, on est des êtres sociaux. Voilà. Et c'est vrai que je parle d'incarnation, là, quelque part, c'est comme si les personnes qui souffrent principalement de cette blessure n'étaient pas incarnées. Vous voyez, c'est comme si elles étaient... toute petite, enfin, comme si elles n'avaient pas vraiment le droit de s'incarner, d'être elles dans la chair, dans l'âme, dans le cœur. Et c'est ce qui explique ce que Lise Bourbeau a mis en évidence dans les silhouettes, ou alors ce sont souvent des gens assez chétifs, avec un corps très étroit, étriqué, qui peuvent avoir aussi, je ne sais pas si elle en parle de ça, mais moi je l'ai remarqué dans les consultations, un regard assez fuyant, évitant, des personnes qui ne regardent pas droit dans les yeux, qui ont tendance à être un peu repliées, voilà, qui sont dans cet évitement permanent. Et c'est comme si leur incarnation sur Terre, bon, on ne va pas parler de spiritualité, mais elles sont venues là pour bosser ça, en fait, pour s'incarner pleinement. Il y en a certaines qui vont le faire, qui vont prendre conscience et qui vont s'incarner et qui vont peut-être même parfois prendre un petit peu de poids, avoir une autre façon de se positionner vis-à-vis des autres, qui vont avoir plus les épaules dégagées, etc., qui vont sortir de ça, et d'autres qui vont rester toute leur vie repliées sur elles, en fait, hein, dans la fuite, et ne s'accueillant même pas, puisqu'elles vont être restées une toute petite personne qui veut se faire oublier. qui voudrait presque être invisible. Voilà, donc parce qu'elles pensent que de toute façon, elles ne peuvent pas être aimées.
Elles valent rien quelque part. Enfin, c'est ce qu'elles pensent qu'elles
Exactement,
valent
c'est
rien.
ça. Tout à fait, vous avez raison, c'est le mot juste. Elles pensent qu'elles n'ont pas de valeur, alors que tout le monde a de la valeur. Et c'est intéressant de travailler avec ces personnes sur la notion de valeur et d'estime de soi et de confiance en soi pour aller les aider à voir ça, que évidemment qu'elles ont une valeur, mais il faut apprendre sa propre valeur, pas la valeur que va nous accorder l'autre. L'autre, il a le droit de penser ce qu'il pense, mais parfois l'autre va nous donner des valeurs qu'on ignore. C'est intéressant aussi. Et là, on voit bien au combien la relation à l'autre est importante. Quand je fais certains ateliers avec des enfants, on va aller travailler avec des jeux sur la découverte de ses qualités, de ses valeurs. Et les enfants, ils ont beaucoup de mal. Et ils sont jeunes. Ils ont beaucoup de mal à se trouver des valeurs et des qualités. Il faut les aider. Donc, dans le jeu, on y arrive. Et ils se donnent souvent moins de qualités que ce que vont donner les autres. Les autres attribuent des qualités. Et les enfants disent « Ah, bah, tu penses que je suis comme ça, comme ça, comme ça. » Et ils sont très surpris. Mais avec les adultes aussi, c'est comme ça. Alors, parfois, on n'est pas d'accord. Je dis pas, c'est pas parce que je dis, c'est pas parce que l'autre t'a donné toutes ses valeurs que tu dois être d'accord avec ça. Hein. Alors on voit, on les hiérarchise, hein, 100% d'accord, 50% et pas du tout d'accord. Et on discute de ça, pourquoi tu n'es pas du tout d'accord. Donc avec les adultes, c'est intéressant de faire ça aussi, de voir à quel point on sous-estime toutes les qualités qu'on peut avoir, toutes les valeurs. On est une valeur ajoutée pour le monde. Enfin, on a toujours quelque chose à apporter à soi et aux autres. Et toute la vie, en fait, on s'enrichit de valeurs et de qualités. Évidemment, c'est le
Ouais.
travail d'une vie. Hein.
D'où l'intérêt, parce qu'effectivement, si on n'a jamais ressenti dans notre famille, alors oui, c'est quelque chose que je voulais vous demander aussi, enfin, vous dire, ça peut être aussi une forme d'éducation. Il y a eu beaucoup d'éducation dans nos grands-parents, etc., où on était dur, hein, où on ne
Exactement.
se montrait pas d'amour, la vie était dure, voilà, puis il y a eu
Ça.
les guerres,
Ouais.
etc., enfin, il faut voir d'où on vient.
Oui. Exactement. Oui, on
Donc,
vient de loin, on avance quand même.
c'est
Et
clair.
il n'y avait pas ce qu'on appelle un peu l'éducation émotionnelle, hein,
Ah oui,
où
pas du tout
aujourd'hui
même.
on apprend à identifier les émotions, à voir où elles se manifestent dans le corps, à les accueillir, et puis on utilise tout un tas de techniques. Mais effectivement, c'est pour ça que je dis que les parents ont fait comme ils pouvaient, parce que un enfant, il a juste besoin de tout ça, qu'on le reconnaisse comme un être émotionnel, un être entier, mais c'est difficile. C'est très très difficile. Un enfant qui pleure, on lui dit pleure pas. Bon, voilà, il a mal, on lui dit mais non, t'as pas mal, ça va passer, un bisou magique et ça passe. Et ça, c'est parce que c'est un héritage, c'est notre héritage, tous ces discours. Donc, c'est en train d'évoluer, les parents évoluent, les enfants nous font évoluer parce que parfois ils disent bah si, j'ai envie de pleurer et c'est bien. Voilà, et puis les écoles aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants qui travaillent sur les émotions, puis il y a plein d'ateliers bien-être maintenant. Enfin, il y a plein de médias, il y a les livres, enfin, il y a plein de choses, hein, où on peut apprendre à se connecter à soi, à ce qu'on ressent au plus profond de soi et verbaliser ses besoins pour être dans le respect de soi. Parce que finalement, dans la blessure du rejet, on ne se respecte pas.
On ne se
On se
respecte
respecte
pas.
pas.
Et puis moi, j'ai envie de poser une question. Finalement, verbaliser ses besoins, encore faut-il les connaître?
Exactement. Donc la victime de rejet, elle ne reconnaît pas ses besoins, elle les bafoue, puisqu'elle fait passer ceux des autres avant.
Mais comment elle
Elle
peut ça? Quand elle a été habituée toute sa vie, depuis qu'elle est toute petite, à ne pas savoir, je sais de quoi je parle, ce dont elle a besoin, et que finalement elle s'est construite dans le regard de l'autre, et que pendant des années elle s'est dit, ah bah si on me dit que je suis comme ça, c'est que je dois être comme ça. Comment vous faites quand vous avez, je sais pas, 20-30 ans, que vous vous rendez compte que votre vie, bah, c'est pas du tout, ça vous correspond pas, mais vous n'avez jamais appris à savoir qui vous étiez finalement?
Et bien justement, si on a conscience de tout ça, si on se dit ça, ce que vous venez très bien de dire, ça veut dire qu'il va falloir réajuster des choses. Alors, quand j'ai parlé d'accordage parent-enfant tout à l'heure, où le parent se met à hauteur de l'enfant pour être bien en phase et se comprendre et évoluer ensemble, remplir les besoins, tous les besoins fondamentaux, hein, de la pyramide de Maslow. Et je crois qu'après, quand on grandit, il faut apprendre à s'accorder à soi. Donc, il faut simplement, c'est ce que je travaille en atelier avec des petits, se poser la question régulière, de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour passer une bonne journée? Est-ce que c'est un besoin physiologique? Est-ce que j'ai besoin de manger plus de choses comme ci, des choses comme ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de boire? Est-ce que j'ai besoin de faire une sieste? Ça, c'est un besoin physiologique. Est-ce que j'ai besoin de dormir? Est-ce que j'ai besoin de crier parce que je suis en colère? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai besoin d'être aimée aujourd'hui, d'être réconfortée? Auquel cas, vers qui je peux me tourner? Est-ce que j'ai besoin de sentir que j'appartiens à une entité de travail? Auquel cas, comment je vais faire? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire un truc, par exemple, qui me fait plaisir à moi? Et je ne vais pas le faire pour avoir un merci, mais moi j'ai envie de me manifester comme ça. Et ça montre que j'appartiens au lieu de travail. Je vais aller acheter des chouquettes pour tout le monde. Mais je le fais pour moi, parce que ça me fait plaisir. Pas pour qu'on me dise merci. Et si X, il ne me dit pas merci, je m'en fiche. Moi, ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne peux pas organiser un petit resto avec mon chéri parce que j'ai besoin de me sentir aimée, de passer un bon moment avec mon chéri. Mais je le fais d'abord pour moi. Pas pour qu'il me dise, ouais, c'était une super idée, je te remercie. En fait, quand on s'est construit dans le regard de l'autre, et c'est normal en fait, parce que un bébé se construit d'abord dans le regard de ses parents. Winnicott, hein, disait, un bébé tout seul, ça n'existe pas. Donc ça, c'est tout à fait normal, d'accord? Mais à un moment, ce qu'il faut, c'est ne plus en être dépendant, pouvoir s'en détacher. L'autre, il pense ça, c'est OK. En fait, ce qu'on peut peut-être essayer de se dire, c'est de développer un autre dialogue ou monologue intérieur. Donc ce que vous avez dit là, c'est juste, vous en avez conscience, se dire. Ouais, mais là, je ne suis pas sympa avec moi, en fait. Là, je fais ça pour l'autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir me dire pour être plus doux ou plus douce avec moi, pour être au plus près de mes besoins fondamentaux? Comment je peux apprendre à m'aimer, à m'accepter? Comment je peux apprendre qui je suis, bah, en allant regarder à l'intérieur de soi ce qui est juste pour moi? Quand on vous dit quelque chose, ou quand vous vous dites quelque chose, dites-vous, est-ce que c'est juste pour moi ça? Est-ce que c'est OK pour moi ou pas? Et là, parce que vous êtes... Enfin, je dis vous, hein, je parle de toutes les personnes qui souffrent. Et moi aussi, hein, c'est une de mes blessures principales. Et ce livre, je le dis en toute humilité, ce livre m'a fait beaucoup travailler dessus et j'ai trouvé ça passionnant. Et j'ai développé d'autres façons de me parler. À nouveau, ça m'a repris une piqûre de rappel. Voilà, quand on est thérapeute, on est avant tout un être humain et on a aussi évidemment des choses à travailler toute sa vie. Mais voilà, de se dire, mais là, je suis en train de me dire ça, mais en fait. Je vais reformuler en fait parce que c'est pas juste de me dire ça. Enfin, on se punit beaucoup, on se flagelle. Dans le livre, il y a un exercice avec l'élastique où à chaque fois qu'on se dit une parole moche, on va. Alors, faut pas se faire trop mal. Hein, je suis
Non,
pas
ouais.
là pour. Mais hop, et on va prendre conscience du nombre de fois dans la journée où on se dit non mais t'es nul, t'es bête, t'es idiote. Oh, mais non mais vraiment, t'as fait n'importe quoi. Bah non en fait, t'es maladroite. T'as fait de ton mieux. T'as cru bien faire, mais ça n'a pas été reçu comme tel. Mais voilà, tu pouvais pas faire mieux à ce moment-là. Changer son dialogue intérieur. Vous savez, les petites voix, là, hein, la sabotrice et puis le petit ange, on laisse plus le son, on monte plus le volume de la voix sabotrice que la voix douce. Donc, c'est ça, c'est essayer de baisser le son de la voix qui nous sabote pour faire monter le son de la voix plus douce, pour apprendre à voir ce qu'il y a de plus joli en nous et pour apprendre à savoir qui on est, qui je suis en fait, moi toute seule, là, dans ce corps-là, qui je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me fait vibrer. En fait, quand on a apaisé cette blessure, on va aller en général vers les personnes avec lesquelles on est authentique. Et là, on voit qui on est, on fait tomber les masques. On va aller vers un lieu de travail où on est soi aussi. On s'en fiche un petit peu s'il y a des jours où on est content de nous, on n'est pas content de nous. Et on ne va plus ramener du boulot à la maison pour y passer des heures. On va se dire, bon, bah, j'ai fait comme je pouvais, je ne peux pas faire mieux. Et puis, bah, ça ne plaît pas, ce n'est pas grave, j'ai quelque chose à en apprendre. On va forcément me dire ce que j'aurais pu améliorer. Et c'est OK. Bien sûr, on peut. Bah, qui est parfait? Ça n'existe pas. Et avec le chéri, bah, c'est quelqu'un en fait où on va se dire, il m'aime comme il peut, je l'aime comme je peux, et voilà. Et puis on va se laisser porter par la vie. De toute façon, même quand on se sent en sécurité avec son conjoint, qui on est, ou sa conjointe, qui on est pour penser que la relation va durer toute la vie? On ne peut pas savoir ça, de toute façon. Donc il y a quand même une certaine insécurité hein, chez la
Ah bah
personne
c'est
qui
sûr.
le rejette. Mais la vie, elle est mouvement. Elle est imprévisible. On peut jamais, même si on se sent aimé à 100%, qu'on est sûr, qu'on a l'impression que personne ne nous rejette, demain, on peut se faire lourder. Hein. Enfin, je veux dire, on peut être licencié. Voilà, donc je veux dire, ça, c'est la vie. Donc, et peut-être, voilà, mettre de la conscience en soi pour prendre confiance en soi. Voilà. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Où est-ce que je peux prendre ma place? Où est-ce que je peux planter mes racines? Pour moi, l'être humain, c'est un peu comme un arbre. Hein. Donc, les racines, c'est d'où je viens. Les parents, les personnes qui comptent pour moi, sur qui je peux compter, les lieux où je me sens en sécurité. Sur le tronc, il y a un peu comme toutes les valeurs que je porte qui sont invisibles. Les branches, c'est toutes mes capacités. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et les fruits et les feuilles, ça va être les rêves que j'ai encore pour continuer à avoir envie d'avancer dans la vie, quoi. Voilà, donc là, je schématise un peu un exercice qui n'est pas dans le livre, mais que je fais avec les adultes et les enfants en atelier pour travailler justement toutes ces notions de qui je suis, comment je peux m'ancrer, qu'est-ce que je porte, quoi, qu'est-ce que je vaux.
Moi,
Voilà.
je me rappelle, je vais témoigner là-dessus parce que ça me parle beaucoup, tout ce que vous dites. Quand j'avais 18-20 ans, j'étais passionnée par voilà, la psychologie, etc. Mais ce n'était pas mes études du tout. Hein. J'avais fait des études d'économie. Et je me rappelle qu'avec l'argent que j'avais de côté, je voulais m'acheter des bouquins justement sur la psychologie, la spiritualité, etc. Et je m'étais dit, mais Carole, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va t'aimer. Donc, je ne les achetais pas.
Ouais.
Et j'achetais ce que des robes pour être jolie, enfin voilà, ce que je pensais dans l'éducation que j'ai eue, qui allait faire que j'allais être aimée. Et ça ne marchait pas. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte. Et effectivement, il y a eu, enfin, je dis ça parce que à ce moment-là, moi j'avais, mais je ne suis pas la seule, tellement besoin d'être aimée, tellement besoin d'être reconnue, que ça passe avant les besoins dont vous parlez. Vous voyez ce que je veux dire? Ce
Bien
besoin
sûr.
d'être aimée. Il est prépondérant sur tout le reste.
Ouais.
Et ça devient une quête, enfin moi c'était une quête obsessionnelle d'être
Ouais.
aimé, c'était un besoin mais physiologique limite.
Alors que finalement, c'est un défaut d'amour de soi. Quand on s'aime suffisamment, avec ses qualités, ses défauts, ses limites, hein, ses ressources, on n'a pas besoin de... Alors, on a besoin de recevoir l'amour de l'autre régulièrement, c'est normal, hein, on a besoin que nos réservoirs affectifs se remplissent, mais on n'a pas besoin d'attendre autant de reconnaissance et d'amour de l'autre. Quand on sait, quand on prend soin de soi, quand on s'aime comme on peut, on va pas être dans cette quête permanente. Voilà. Et on peut être jolie, on peut être très jolie, s'apprêter et aller à un dîner et personne va nous dire, ah, dis donc, t'es jolie aujourd'hui. Donc, la grosse déception. Et parfois, on va être habillée en tenue de sport, on va croiser dans la rue quelqu'un qui va dire, mais non, t'es en forme aujourd'hui, ça a l'air, t'es chouette. Voilà. Enfin, on ne sait pas comment l'autre. Et puis l'autre, il est peut-être pas dans une culture de gratification. Alors, les parents, c'est autre chose, mais il faut, si vous voulez avoir une jolie robe, il faut le faire pour vous. Voilà, c'est, vous voulez passer du temps dans le miroir, faites-le pour vous. Faut d'abord se réconcilier avec son corps aussi. Voilà, enfin, et qu'est-ce que vous portez de beau? Parce qu'il y a ce qu'on voit et il y a ce qui ne se voit pas. Et il y a sûrement plein de belles choses qu'on peut transmettre à l'autre parce que ça nous fait plaisir sans attendre en retour qu'on nous dise, ah mais merci, mais sans toi, je ne pourrais rien faire. Oh, tu es vraiment une super personne, tu es vraiment la super pote sur qui je peux t'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je sais que je peux compter sur toi. Sauf que là, il y a une dépendance. Enfin, ça veut dire que prendre cette place-là, la super pote qu'on peut déranger n'importe quand, qui est un soutien infaillible, c'est lourd à porter en fait. Et on se perd. Et on ne s'écoute pas, et on est désaxé, donc on n'est pas soi, on est presque vampirisé par ceux qui, eux, ont enregistré ça comme bah, c'est chouette, quoi. Elle, on peut toujours compter sur elle. Ou lui, on peut toujours compter sur lui. Mais on peut pas, quoi. On n'est pas un distributeur d'argent émotionnel 24 heures sur 24.
Est-ce qu'on donne pas aux autres ce qu'on aurait aimé recevoir nous?
Exactement, c'est tout à fait ça. On donne aux autres ce qu'on aurait aimé, ce qu'on aimerait recevoir nous. Donc c'est sûr que donc on pense d'abord aux autres. C'est ce que je dis dans le livre, je crois, à un moment, on va souhaiter bonne année à minuit à tout le monde pour être la première. Et voilà, on va souhaiter bon anniversaire à 6 heures du matin parce qu'on est la copine ou l'amoureuse, voilà, ou je sais pas moi, la belle-sœur, ou vraiment, elle pense tout le temps à nous. Et le jour où on ne le fait pas, ça fait bizarre. Alors qu'en fait, bah, c'est ce qui est juste pour moi. Pourquoi je prends cette place-là? Voilà, c'est. Donc ouais, c'est exactement ça. Ce que vous avez dit là, vos mots, c'est juste. C'est tout à fait la problématique de la blessure de rejet.
Et donc finalement, pour apprendre, donc la thématique, c'est apprendre à s'aimer soi-même, j'ai envie de dire, hein,
C'est ça.
ça passe donc de ce que je comprends par nourrir ses besoins, donc vraiment les écouter et puis les nourrir. Qu'est-ce qui fait que, même si j'ai une petite idée, qu'est-ce qui fait que plus on nourrit son besoin, plus on est capable de s'aimer?
Bah parce qu'on est en accord avec soi, on est en phase avec soi. Du côté des thérapies holistiques, on va dire qu'il y a un alignement. La tête, l'âme, le cœur, voilà, tête, cœur, âme, on est ensemble avec soi, on est complet, quoi. On se fait du bien. Alors, il ne s'agit pas de devenir complètement égoïste, hein, bien sûr, hein, mais quand je me fais du bien, je me fiche un petit peu de ce qui va se passer autour de moi. qu'on me dise un compliment aujourd'hui ou pas, ça m'est égal puisque moi, je me sens comme ça et je me sens bien comme ça, je suis satisfaite de moi. C'est développer son autosatisfaction, en fait. C'est aussi apprendre à se faire des compliments parce que les victimes de rejet ont du mal à accepter les compliments. Ah, t'as une super coupe. Oh, bah, c'est ma coiffeuse. Ah, ta robe, elle est jolie. Ouais, bah, je l'ai achetée dans une friperie. Voilà. Souvent, il y a de l'auto-dénigrement. Et
Ouais.
donc, apprendre à accueillir le compliment de l'autre, parce que c'est paradoxal. On veut être aimé, et quand on nous fait une gratification ou une marque de reconnaissance ou d'amitié, d'amour, on va la rejeter parce qu'on n'est pas digne. Donc, apprendre à se taire, on a envie de dire non, mais c'est pas moi, c'est ou gna gna gna. Oups, prendre conscience. Là, j'allais m'auto-dénigrer. Se taire ou simplement dire ah bah merci. Voilà, et accueillir ça. Mais c'est, ouais, c'est tout un. Donc voilà, cet alignement, je le fais pour moi, ça me fait du bien et je suis digne. Et ce que j'aime bien conseiller aux patients, et que ce soit en individuel ou en groupe, c'est se faire ces petites phrases comme des mantras. Hein. Je suis pas professeure de yoga, donc ça n'a pas la même dimension, mais le matin, en se préparant, pourquoi pas se dire des phrases à voix haute. Je suis digne d'être aimée. Je suis légitime, j'ai confiance, je m'aime comme je suis, je m'accepte. Des phrases comme ça qu'on peut travailler de différentes manières. Voilà, ça peut chercher aussi des relaxations, des méditations où on va essayer de remobiliser des souvenirs où on a été quelqu'un qui a donné le change, où on s'est senti bien pour remettre tout ça à l'intérieur de soi. Enfin, et puis surtout, ce qu'on appelle. Peut-être, je sais plus si c'est le terme exact, mais moi j'aime bien ça, le reparentage, hein, c'est-à-dire se recréer, un peu comme l'enfant intérieur, hein, se recréer à l'intérieur de soi ses propres parents, les imagos parentales qui vont prendre soin de nous. Imaginez, alors ça on peut le faire en méditation, en fermant les yeux, imaginez à quoi ressemblerait la maman que j'aurais voulu être, à quoi ressemblerait ou l'autre maman, ou le papa, ou l'autre papa, enfin peu importe, ça dépend des configurations, mais voilà, et s'imaginer ces parents-là et visualiser. Les câlins, les mots que vous auriez voulu recevoir, et cette petite fille intérieure-là, comment elle peut se remplir de ça, la réparer, lui offrir des mots doux, la prendre par la main. On est vraiment proche de l'enfant intérieur pour réparer cette blessure. Voilà.
Et puis au quotidien, donc effectivement, plutôt que de voir toujours ce qui n'est pas assez bien, pas assez parfait, pas assez, etc., dans le regard des autres, commencer, parce que moi je sais que ça a commencé comme ça aussi personnellement, hein, à voir ce qu'on faisait de bien et effectivement arrêter de dénigrer. C'est très juste que vous dites le Ah, t'as des jolies boucles d'oreilles, moi je dis, ah oui, je les ai achetées pas cher.
Voilà, eh ben c'est
C'est
ça.
le
Oh
premier
bah oui.
réflexe.
Ouais, ça m'arrive aussi. Hein. Elle est chouette ta robe, je l'ai eu à la friperie. Et maintenant, je ne le dis plus. Parce qu'avec ce livre, j'ai rebossé. Je me dis, bah merci. Ouais, merci, je l'aime bien aussi. Voilà. Ou je me sens bien dedans. Ah bah ouais, elle te va bien. Bah merci, ouais. Voilà. Et ça, c'est quand. En fait, c'est tellement engrammé. C'est des
Ouais, c'est
programmes, hein,
ça.
c'est des
Ouais.
programmations, c'est le disque dur. Hein. Donc, il faut créer d'autres connexions synaptiques, d'autres connexions neuronales. Donc, ça, c'est les neurosciences. Il faut se recréer ce dialogue intérieur. Il faut se réparer en visualisant les choses, en fermant les yeux. Il faut se remettre dans des énergies comme ça, d'amour de soi. Voilà, il faut se prendre en charge parce que,
Ouais.
voilà, c'est.
Peut-être se faire aider, parce que moi, ce que je trouve pas facile, c'est que
Tout à fait.
si on est que dans un environnement autour de soi où on est soit seul,
Oui.
soit avec des gens qui nous ont entre guillemets rejetés, qui ont cette même
Oui.
blessure,
Ou qui
pour
rejettent
trouver
encore.
le exactement pour trouver le juste milieu, enfin, c'est pas facile.
Bien sûr, non, vous avez raison. Hein. Je crois qu'à un moment, quand on en souffre trop et qu'on n'a pas l'environnement suffisamment étayant autour, ou si on a un environnement qui va passer son temps à rejeter parce qu'il fonctionne comme ça, hein, un coup je te jette, un coup je te prends, c'est pathologique. Il faut effectivement se faire aider et puis aussi aller à la rencontre d'autres personnes qui vont peut-être nous
Oui.
soutenir parce que parfois c'est aussi, ça montre aussi certaines relations toxiques.
Oui.
Hein, parce qu'il y a la blessure de rejet telle qu'on la vit, et il y a celle que les autres nous font vivre, mais avec du plaisir. Donc là, on est dans des relations un peu sadiques, donc là, c'est toxique. Donc là, ça veut dire qu'il faut peut-être aller couper certains liens et aller voir d'autres personnes. Ça peut être bien, quoi.
Et pour les personnes qui ont donc cette blessure de rejet et dans une relation de couple, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil justement pour être moins... Oui, pour avoir moins cette espèce de musique de fond que je ne le mérite pas, je ne la mérite pas, je ne suis pas assez bien.
Ben, je vais me répéter, mais c'est arrêter de se le dire. Hein. C'est de se dire s'il est avec moi, c'est que forcément il y a des choses qui lui plaisent chez moi. Donc, ben, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait lui plaire chez moi? Alors, le danger d'en parler avec le conjoint, c'est que, ou la conjointe, c'est qu'à un moment, ça va lui. il va se sentir jugé. Enfin, il va se dire, bah, en fait, elle n'a pas confiance, ou il n'a pas confiance, ou il doute. Et ça peut ouvrir des portes qui sont bien fermées, quoi.
Ouais, puis c'est en plus c'est pas très sexy non plus hein, d'être avec
Ben
quelqu'un
non.
qui est toujours en proie au doute.
Voilà, c'est ça, ouais. Donc, faut avoir confiance, et puis de toute façon, Inch'Allah, quoi. Hein, montrer qu'on aime l'autre, mais pour se faire plaisir à soi. Et puis, quand l'autre vous témoigne des marques d'affection, d'amour, ben, en profiter pleinement, parce que l'autre n'est pas toujours disponible pour montrer comment il aime. Mais dans ces moments-là, il faut faire le plein, quoi. Il faut remplir ce réservoir. Ouais, là, je me sens super aimée. Ça va me servir pour tous les moments où j'aurai besoin, mais on m'en donne pas assez. Et là, il va falloir que j'aille chercher au fond de moi. Donc, si j'ai emmagasiné, ça va être beaucoup plus facile, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais avoir confiance en la vie, hein, non, c'est.
Et puis petit à petit, c'est se reprogrammer petit à petit, finalement, fonctionner différemment petit à petit.
Ouais, exactement. Ne pas oublier qu'on est tous des belles personnes et qu'on a tous quelque chose à apporter à l'autre et à apporter à soi. Enfin, voilà, être gentil avec soi. On dit que la bienveillance, c'est bienveiller sur. Alors déjà, commençons par bienveiller sur nous. Et on aura une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée avec les autres. Parce que c'est dur d'exiger des autres qu'ils comblent nos attentes et nos besoins. C'est dur.
Mais on le
On est
fait
là
pas
par
on le
eux.
fait pas
Non,
consciemment.
non, bien sûr que non. Bien sûr
Hein.
que non. Mais
Ouais.
quand on en a conscience, ben là, c'est un peu plus magique, entre guillemets, parce qu'on va essayer d'aller travailler ça. Alors, les livres peuvent nous aider, mais les thérapeutes, bien sûr, je pense qu'à un moment, quand on s'enlise et qu'on en souffre, il faut consulter, il faut se faire aider. Alors, il faut trouver le thérapeute qui nous convient. Donc, voilà, faut pas hésiter à changer de thérapeute si ça ne nous convient pas.
Et puis, ce que je trouvais sympa aussi dans votre livre, alors qui est très pratique, hein, on fait plein de petits tests, du coup, on prend conscience de plein de choses. Puis après, forcément, il y a la partie entre guillemets solution. Et vous donnez des exercices quotidiens, par exemple des méditations, de l'auto-hypnose, de l'EFT. Alors, vous pouvez nous montrer un petit exercice d'EFT sur ce sujet, par exemple, qui est intéressant?
Oui, bah, en fait, l'EFT, ça va être des tapotements, hein, à différents endroits du corps. Et alors moi, j'ai pas fait ça. Là, ça, c'est la ronde, c'est un peu plus complet. Donc, ce que j'ai proposé dans l'ouvrage, qui est plus accessible, parce qu'il y a des personnes, quand on leur montre la ronde totale, ils nous prennent souvent pour des gens un peu bizarres. Donc, je
D'accord.
commence toujours par le point de karaté, et je trouve que c'est plus accessible
Oui.
justement dans l'ouvrage. C'est ce que j'ai choisi. Donc, le point karaté, c'est le point. C'est ce point-là, hein, je ne sais pas si on voit,
Oui,
voilà,
oui.
on va se tapoter, donc peu importe la main, et on va se
D'accord.
répéter des phrases en même si. Même si je me sens rejetée parfois, je fais attention à moi. Même si, voilà, et on va prendre des exemples très concrets de notre vie
Oui.
quotidienne. Même si j'ai l'impression de manquer d'amour, finalement, si je fais attention à ce que j'ai vécu hier, un tel m'a aimé, je dis n'importe quoi là, parce que bon, c'est ce qui me vient, mais même si je déteste certaines parties de moi, je m'aime et que je m'accepte comme je suis. On va essayer on part de ce qui ne va pas, là où le bât blesse. Et dans la deuxième partie de phrase, on va essayer de trouver du positif. Et ça rejoint un petit peu les mantras, en fait, les phrases qu'on va pouvoir se dire. Donc, dans le livre, j'en ai proposé plusieurs. Et le but, c'est important même que la personne trouve ses propres mantras, trouve ses propres phrases. Et moi, j'aime bien dire, pour faire cet exercice de EFT, on prend un moment de calme, on fait quelques petites respirations profondes et lentes, on ferme les yeux, on est vraiment dans un endroit où on est tranquille, on se connecte un petit peu à soi, et puis on va laisser venir ce qui vient. Et on ne va pas chercher à maîtriser ce qui vient dans le même si-je, quoi. On s'en fiche. Parce que ça a du sens, parce que répéter mes phrases, c'est une approche, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Je trouve que le mieux, c'est d'être soi et de laisser venir, même s'il y a des émotions qui viennent. Et en EFT, il y en a, hein, parfois les gens pleurent. C'est dur de dire, hein, même si je souffre de cette blessure, je m'aime comme je suis. Il y a des gens, ils pleurent, ils n'arrivent pas à dire je m'aime comme je suis. Donc je m'accepte, je fais de mon mieux. Jour après jour, j'apprends, etc. Enfin, je me pardonne. Voilà, ça c'est. Donc je trouve que c'est, pour moi, c'est le plus juste. Et ça va résonner au niveau énergétique. En fait, voilà, on est fait d'énergie, il y a des vibrations. Voilà, on envoie dans l'univers ou dans ce qu'on veut, des choses plus douces pour nous, et on se libère aussi. C'est une technique de libération, c'est Emotional Freedom Technique, hein, donc c'est une technique de libération émotionnelle. Et ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, il y a des points importants, il y a des méridiens, et je ne suis pas spécialiste du tout de ça, hein, mais j'aime bien l'utiliser, voilà, les rudiments assez simples, et les personnes qui adhèrent, on va aller un petit peu plus loin, mais voilà, donc comme se pardonner à soi, voilà. Pour pardonner aux autres, il faut d'abord se pardonner à soi. Donc, le travail qu'on fait par rapport à ses parents réels, puisque souvent on incrimine les parents alors que les pauvres, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, on va d'abord pardonner à soi d'avoir pensé tout ça, de voir les choses comme ça, de les ressentir encore comme ça, comme un petit enfant, pour pouvoir leur pardonner. Parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils étaient à ce moment-là et avec leur bagage. Donc,
Mais peut-être avant de leur pardonner, oui, commence à se pardonner à soi, sinon encore on est encore dans notre blessure.
ouais.
Aller d'abord vers l'autre avant d'aller vers soi.
Je pense que la première personne à qui on doit pardonner, c'est soi.
Oui.
Je me pardonne de me vivre comme ça. Je me pardonne de mal m'aimer. Je me pardonne de dépendre autant du regard de l'autre. Je me pardonne d'aller chercher toutes les satisfactions, les gratifications, la reconnaissance, l'appartenance, ailleurs qu'en moi, quoi. Voilà, je me pardonne de pas trop savoir encore qui je suis. Voilà, et j'accepte ça et je me fais se faire des promesses. Je me promets que je vais prendre soin de moi, je me promets que je vais être à l'écoute. On peut tenir un petit journal hein, tous les jours. Hein, pourquoi j'ai besoin, comment je me sens à l'intérieur de moi. Ça, c'est des petites questions rituelles que j'utilise toujours en atelier. Voilà, et comment je vais pouvoir combler mes besoins, ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Est-ce que je peux me faire la promesse de combler ce besoin et quand? Et se tenir un petit échéancier. Ça, j'en ai besoin quand? Et quand je vais le faire, quand je vais le satisfaire? Si on ne satisfait pas ses propres promesses à soi, comment voulez-vous que les autres vous satisfassent? Enfin,
Bien
on se
sûr.
ment. On se ment, en fait. Donc, retrouver un alignement, retrouver un axe, s'accorder à soi. Ça. Et quelque part, c'est le point positif de cette blessure de rejet quand on en prend conscience. Quand on en prend conscience, et ben finalement, on apprend à être soi. On fait tomber les masques et on devient de plus en plus authentique. Voilà. Et on apprend aussi sur quelle relation. Parce que quand on n'a jamais été soi, et que d'un seul coup, enfin progressivement, parce que ça ne se fait pas d'un seul coup, mais que progressivement, on devient soi avec les autres, il y a des relations qui peuvent en pâtir. Quand vous avez été tout à l'autre, où
Bien
vous
sûr.
faisiez toujours passer l'autre, et qu'un jour, vous vous faites passer en premier, pour prendre soin de l'autre, il faut se faire passer en premier normalement. Il y a des gens, ils ne vont pas comprendre. Donc, ils vont vous tourner le dos. Mais ce n'est pas grave, parce
Mais
que
c'est pas
vous,
grave.
vous aurez gagné ce pari d'être vous. Et pour être bien, il faut être soi le plus possible. Je n'ai pas dit qu'on pouvait être authentique à 100% dans toutes les situations de vie. Bien sûr, il y a des fois où on ne peut pas. On ne peut pas dire ce qu'on pense. On ne peut pas être. Parce que voilà, il y a le travail, il y a le cadre, il y a ou telle cérémonie où, bon, bah là, il y a un truc, ça ne va pas du tout, mais je ne vais pas le dire parce que là, ça va mettre le beans. Bon, il faut quand même garder des filtres. Hein. Mais en tout cas, on fait toujours de son mieux. Mais voilà quoi. C'est sûr que quand on ne change pas les autres. Mais quand on change, ça fait bouger un peu les relations, ça fait un peu bouger les autres. Les autres vont devoir aussi s'accorder, accepter cette nouvelle facette de vous. Alors voilà, mais si c'est juste pour vous, cette nouvelle facette de vous, vous l'aimez, qu'elle vous correspond, ben c'est OK quoi. Voilà, c'est.
Et pour conclure, je voulais conclure aussi sur une note positive à laquelle on pense peut-être pas trop. C'est que, alors déjà, effectivement, moi, je pense qu'on a, enfin, je le vois bien, personnellement, j'ai beaucoup évolué depuis mes 20 ans et tant mieux, parce que c'était
Oui, c'est toute
compliqué.
la vie. Hein.
Voilà, il y a encore du chemin, mais voilà, on peut s'en sortir quand même. Mais quand on a cette blessure de rejet, on a aussi de très grandes qualités qu'on a pour toute la vie. Je trouve qu'on peut avoir une grande ouverture de cœur, que on peut ressentir complètement l'autre de manière très rapide.
Tout à
Et
fait.
ça, c'est bien.
Il y a de l'empathie, il y a de la générosité, il y a de l'altruisme, il y a de la bienveillance. Voilà, et ça, ce sont de belles qualités, de belles valeurs, à condition de ne pas s'y perdre. Et de le faire, c'est
C'est
vrai que vous
ça.
dites des personnes au grand cœur, mais à condition que leur cœur à elles soit toujours rempli.
Ouais.
Hein, voilà, on ne prête pas son cœur aux autres, on en garde. Et voilà, on fait les choses parce que c'est juste pour nous et pas pour être aimé. Voilà.
C'est super. Et ben, ce sera le mot de la fin.
Très bien, bah écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous, Mélanie.